Kerouac Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 1er septembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
L'Assemblée nationale incendiée à Libreville, point culminant des violences dans la capitale gabonaise, après l'annonce de la victoire du président sortant Ali Bongo Ondimba à la présidentielle.
Concernant toujours le Gabon, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé hier sa profonde préoccupation et lancé un appel au calme et à la retenue.
Exit de la présidence du Brésil, Dilma Rousseff a été destituée par le Sénat pour maquillage de comptes publics.
Ici aux États-Unis, Donald Trump s'est engagé à ne procéder à aucune régularisation de clandestins s'il était élu à la Maison-Blanche.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal. Nous commençons avec le Gabon où la publication hier des résultats de la présidentielle de samedi dernier a provoqué des émeutes et des protestataires ont mis le feu à l'Assemblée nationale. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall. Idriss, bonjour.
Oui, bonjour. Les émeutes se sont poursuivies jusqu'à très tard dans la nuit avec des scènes de pillage. Les jeunes manifestants ont érigé des barricades dans plusieurs quartiers, dont Charbonnage, qui abrite le quartier général de Jean-Ping, l'ancienne Sobraga, la route nationale vers Lambaréné aussi, et même à Port-Gentil, la ville rebelle. Partout, il y a eu vraiment des violences et l'armée a répondu avec participation d'hélicoptères, des canons à eau et des grenades assourdissantes. Donc toute la nuit, c'était ça. Maintenant, ce matin, ça s'est relativement calmé. Je ne suis pas encore sorti pour faire un état des lieux. Donc c'était ça toute la nuit d'hier.
Et qu'est-ce qu'on prévoit vraiment pour aujourd'hui? Que pensez-vous
J'ai pu lancer quelques appels ce matin, dont quelques jeunes qui me disent de terminer à continuer à manifester pour dire Ali doit partir. Donc je pense que ça va continuer, mais il faudra que j'attende peut-être une heure pour voir est-ce que les manifestations ont continué ou pas. Mais la détermination des jeunes est là, les appels au calme, même hier, avant qu'ils ne commencent, beaucoup de personnes avaient appelé au calme, mais les manifestants ne les ont pas entendus.
Pour rappel, Idriss, pouvez-vous revenir sur les raisons de la colère des opposants au régime qui contestent les résultats de la présidentielle?
La CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente, devait proclamer les résultats. Et dans la CENAP, il y a 4 membres de l'opposition et 4 membres de la mouvance présidentielle. Et vous avez vu, la proclamation des résultats a pris presque 24 heures où ces personnes-là étaient enfermées et jusqu'hier. Donc, l'opposition est sortie 3 fois pour dire, écoutez, on ne peut pas accepter ça. Parce que sur l'ensemble des 8 provinces, Jean-Ping avait une avance de 10 000 voix. Il manquait une province, c'est la province du Haut-Ogooué, c'est de là où sont originaires les Bongos, avec pour capitale Franceville, et qui abrite aussi une autre ville qui s'appelle Bongoville. Donc, dans la province du Haut-Ogooué, bizarrement, le taux de participation était presque de 95%, et Ali Bongo obtient là-bas les 99, quelque chose pour cent. Et tous les leaders de l'opposition qui siégeaient dans la CENAP sont sortis, y compris Paul-Marie Mukaga, pour dénoncer en fait une manipulation nord-coréenne des résultats qu'il ne peut pas accepter. Et donc c'est parti de là. Et c'est ça qui a fait basculer les résultats. Donc, et permis à Ali Bongo d'avoir une avance de quelques 5000 voix sur Jean-Ping.
Merci beaucoup, Idriss. Merci. Je crois qu'on a compris ce qui a dû se passer hier. Alors, maintenant, selon l'AFP, l'opposant gabonais Jean-Ping a affirmé que son QG a été pris d'assaut par les forces de sécurité à Libreville. Il a dit qu'ils ont attaqué vers 1 heure locale. C'est la garde républicaine. Ils ont bombardé par hélicoptère, puis ils ont attaqué au sol. Il y a 19 blessés, dont certains très graves, a déclaré M. Ping à l'AFP, précisant qu'il n'était pas sur les lieux. Alain-Claude Bilibinze, porte-parole du gouvernement, a affirmé, lui, que l'assaut visait des criminels qui avaient incendié l'Assemblée nationale dans l'après-midi. Anne?
Oui, donc le camp de Jean Ping rejette donc la réélection d'Ali Bongo Ondimba et accuse le pouvoir de fraude. Éric Manirakiza a joint à Bruxelles Armand Angot, un partisan de Jean Ping.
Nous avons déjà la réaction de la population gabonaise. Nous sommes avec notre population, avec la population gabonaise, qui ne reconnaît pas les résultats qui ont été donnés par la CENAP et le ministère de l'Intérieur. Donc nous allons protester jusqu'au bout. Nous sommes là sur le terrain avec la population gabonaise.
Jusqu'au bout, qu'est-ce que cela veut dire?
Il y a des observateurs internationaux qui étaient sur place, des observateurs américains, des observateurs européens. Ils ont suivi tout ce processus. Les résultats de la province du Haut-Ogooué ont été donnés globalement. Alors nous aimerions que les résultats soient donnés bureau de vote par bureau de vote, ce qui fera ressortir l'ampleur de la fraude qui a été faite par les partisans de M. Ali Bongo, c'est-à-dire le pouvoir en place, le ministère de l'Intérieur et la CENAP. Déjà le monde entier le sait que c'est de la triche, que Jean Ping était déjà à 60 000 électeurs de plus que M. Ali Bongo. C'est une seule province. Voyez-vous, avec une participation de 99,96%. Vous vous rendez compte, ça c'est jamais vu dans le monde, ça. Monsieur, ça peut pas continuer, on en a marre. C'est tout le temps la même chose. Un leader de l'opposition qui gagne les élections et c'est toujours la famille Bongo qui reprend le pouvoir. Ça ne va pas, ça ne peut pas durer comme ça, monsieur, on en a marre.
Quant au porte-parole du gouvernement gabonais, Alain Bilier Nbinzié, il explique que la loi gabonaise ne prévoit pas de publication de résultats par bureau de vote.
Les Gabonais viennent de voter pour élire un nouveau président pour un nouveau mandat. Ils ont choisi le candidat Ali Bongo qui présentait un projet qu'ils ont validé. Pour ce qui est des réclamations d'opposition, elles doivent être fondées sur la loi gabonaise. Et la loi gabonaise ne prévoit pas de publication de résultats bureau de vote par bureau de vote, ni pour M. Ping, ni pour M. Ali Bongo. Donc nous n'allons pas réinventer la loi parce que l'opposition le demande, monsieur.
Il y a contestation des résultats. Pour question de transparence, qu'est-ce qui est prévu pour garantir la crédibilité?
La crédibilité est garantie par les lois gabonaises. Lorsque nous nous sommes engagés à cette élection, chacun connaissait les lois gabonaises. Et donc ce n'est pas parce qu'on a perdu qu'on doit refaire les lois. Et ça, nous sommes habitués maintenant dans notre pays à ce que l'opposition perdu, écrit et elle veut revendiquer pour refaire les lois de la République. On ne refait pas les lois parce que quelqu'un a perdu une élection. Elle a été faite dans les mêmes conditions pour tous les candidats et c'est la CENAP qui proclame les résultats de ce qui a été fait.
Concernant toujours le Gabon, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exprimé hier sa profonde préoccupation et il a lancé un appel au calme et à la retenue après les émeutes à Libreville. Dans un communiqué, M. Ban a demandé à son représentant spécial pour l'Afrique centrale, M. Abdoulaye Batili, d'accompagner les acteurs politiques gabonais dans leurs efforts visant à apaiser la situation et à résoudre pacifiquement les questions litigieuses émanant du processus électoral.
En République démocratique du Congo, 11 militants d'opposition ont été condamnés mercredi par un tribunal de Lubumbashi dans le sud-est du pays, sans être assistés de leur avocat. Ils avaient été arrêtés pour une manifestation contre le dialogue national voulu par le président Joseph Kabila.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump a proposé hier un véritable arsenal répressif contre l'immigration clandestine lors d'un discours applaudi par la base conservatrice. Quelques heures plus tôt, le candidat républicain à la Maison-Blanche avait rencontré à Mexico, dans une ambiance plus apaisée, le président mexicain. Il a notamment contredit le président Enrique Peña Nieto qui a affirmé sur Twitter que le Mexique refuserait, quoi qu'il arrive, de financer la construction du mur que Donald Trump promet de construire à la frontière pour freiner l'immigration clandestine. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
Les États-Unis se disent préoccupés par l'expansion des colonies juives en Cisjordanie. Des détails avec Lionel Gaïma.
L'État hébreu a approuvé mercredi des projets de construire 463 nouvelles habitations dans diverses colonies juives de cette région palestinienne. Selon les autorités israéliennes, les Juifs vivent dans ces zones depuis des siècles et leur présence n'entrave en rien le processus de paix. Cette importante expansion des activités et des implantations pose une sérieuse menace à la viabilité de la solution de deux États pour le conflit israélo-palestinien, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche. Washington est particulièrement troublé par l'autorisation rétroactive des implantations illégales. La communauté internationale perçoit les colonies juives comme le principal obstacle à ce processus gelé depuis plus de deux ans parce qu'elles parsèment un territoire que les Palestiniens revendiquent pour leur futur État.
Le Brésil a un nouveau président. Dilma Rousseff, du gouvernement de la gauche, a été destituée hier et remplacée par Michel Temer, son ancien vice-président. Elle a été démise de ses fonctions au terme d'un procès de 6 jours au Parlement brésilien. L'ancienne chef de l'État a été entendue pour maquillage de comptes publics.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco. John Linden.
Le métro d'Abidjan ne sera finalement pas opérationnel avant 2020 comme espéré. D'abord annoncé pour 2017, puis 2019, le premier tronçon de 37,9 km du train urbain qui doit transporter près de 300 000 passagers chaque jour est victime des multiples négociations entre l'État et les entreprises intéressées par sa construction. 1 milliard d'euros sera nécessaire pour la première ligne au lieu des 500 millions d'euros planifiés initialement. L'Ouganda a accordé des très attendus permis d'exploitation pétrolière au groupe français Total et britannique Tullow, a annoncé la ministre de l'Énergie, Irène Mulony. Le gouvernement ougandais espère gagner 1,5 milliard de dollars par an grâce à l'exploitation pétrolière. L'économie du Cameroun enregistre une forte croissance en 2016-2017 selon les prévisions du Business Monitor International. De 5,3% en 2016, la croissance atteindra 7,1% en 2017. Ceci grâce notamment à de grands travaux d'infrastructures et de pipelines.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Ce mercredi était le dernier jour du mercato, le marché des transferts. D'abord en Angleterre, Manchester City prête l'Ivoirien Wilfried Bonny à Stoke City.
Oui, Manchester City a prêté l'attaquant international ivoirien Wilfried Bonny, non désiré par le nouvel entraîneur Pep Guardiola, à Stoke City pour une saison. C'est ce qu'ont annoncé hier les deux parties. Bonny, âgé de 27 ans, arrivé à City pour près de 30 millions d'euros en janvier 2015 en provenance de Swansea, a disputé 46 matchs avec le club mancunien pour 10 buts. L'international ivoirien, avec 44 sélections aux côtés des éléphants, était devenu seulement le troisième choix derrière Sergio Aguero et le jeune Nigérian Kelechi Iheanacho, depuis l'arrivée de l'entraîneur catalan.
Angleterre toujours, Didier Ndong à Sunderland.
Oui, le milieu de terrain gabonais de Lorient en Première Ligue française a signé un contrat de 5 ans avec Sunderland qui a déboursé 16 millions d'euros pour sa venue. Le montant de transfert le plus élevé de son histoire, c'est ce qu'a annoncé mercredi le club anglais. L'international de 22 ans débarque de Lorient qui l'avait recruté pour 1 million d'euros en janvier 2015 au club tunisien de Sfax. Il inscrit 2 buts en 46 apparitions avec Lorient.
David Luiz en route pour Chelsea.
Oui, un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Chelsea pour le transfert du défenseur brésilien du Paris Saint-Germain, David Luiz, qui s'est rendu hier à Londres selon plusieurs médias. Selon un tweet d'un journaliste du média français RMC Sport, les deux clubs se sont entendus sur une indemnité de près de 40 millions d'euros. Le quotidien de la capitale française, Le Parisien, indique de son côté sur son site internet que le Brésilien est parti dans la capitale anglaise à quelques heures seulement de la fin du mercato.
En Belgique, Etchezile de Monaco prêté au Standard de Liège en Belgique.
Oui, le défenseur international nigérian de Monaco, Anderson Etchezile, âgé de 28 ans, a été prêté une saison avec option d'achat au club belge du Standard de Liège. C'est ce qu'on a appris ce mercredi auprès du club de la Principauté. Etchezile à Monaco depuis janvier 2014 n'avait pas encore joué cette saison avec le club monégasque. Depuis son arrivée, il a disputé 52 rencontres et inscrit 2 buts, toutes compétitions confondues.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous allons passer maintenant à nos dossiers du jour. Nous allons commencer par le Gabon. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été réélu pour un deuxième septennat avec 49,80% des suffrages devant l'opposant et ex-cacique du régime d'Omar Bongo, Jean Ping, 48,23% lors du scrutin à un tour tenu samedi dernier, selon les résultats officiels provisoires proclamé hier à Libreville par le ministre de l'Intérieur, Pacom Moubele-Boubeya. L'opposition conteste les résultats de la province du Haut-Ogooué, où M. Bongo obtiendrait 95,46% des suffrages, avec une participation de 99,93% pour 71 714 inscrits. Alors, pour une analyse, John Lyndon a joint à Yaoundé, au Cameroun, Parfait Siki, qui est journaliste et directeur de rédaction du quotidien de l'économie.
Je remarque d'abord que la Commission nationale a pu proclamer les résultats et que ces résultats sont contestés par le principal opposant d'Ali Bongo. Je constate que c'est une situation qui est très incertaine. En tout cas, le climat sociopolitique est tendu, il est à couper au couteau et on plonge là dans une sorte d'incertitude. On ne sait pas très bien, on a très peur pour le Gabon.
Le Gabon est limitrophe du Cameroun. Est-ce que ce qui se passe au Gabon pourrait avoir un impact quelconque dans votre pays?
Oui. Il y aura forcément un impact dans notre pays. Vous pouvez déjà savoir qu'à l'approche de cette élection, beaucoup de Camerounais sont retournés dans leur pays à la suite des menaces et de la tension qui était dans l'air. Vous savez également que les Gabonais eux-mêmes ont dû se retrancher pour la plupart chez eux, faire des provisions en prévision de cette situation qu'ils imaginaient donc déjà explosive. Si cette tension qui commence à se manifester par les violents que l'on a pu voir continue, il y a une bonne partie de la diaspora camerounaise qui va être obligée de retourner au pays et probablement quelques Gabonais qui vont les suivre pour retrouver des terres un peu plus calmes.
Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de la communauté internationale, notamment les États-Unis, la France et l'Union européenne, demandent à ce que les votes soient comptés bureau de vote par bureau de vote?
Je pense que c'est une question de bon sens. À partir du moment où la commission électorale est certaine des résultats qui lui ont été apportés, je ne vois pas ce qui s'opposerait à ce qu'on procède à un recomptage de voix bureau de vote par bureau de vote. J'entends dire que cela n'est pas prévu par les textes de la commission électorale. Ça dit qu'il faut ouvrir rapidement le contentieux afin que les éléments soient mis à la disposition des partis, peut-être la justice, pour que le vrai résultat, la légitimité soit issue de cette élection. Donc je pense que c'est une position de raison qui est exprimée par les États-Unis, l'Union européenne, en tout cas la communauté internationale de façon générale.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une porte de sortie? Est-ce qu'on pourrait penser à une entente entre Jean Ping et Ali Bongo?
Au stade actuel, cela va être difficile. Les positions se sont beaucoup trop crispées. Les camps se sont beaucoup trop liés les uns contre les autres. La campagne électorale a été beaucoup trop violente. Et on a bien peur que cela soit durablement une situation très difficile à gérer. Pour le moment, il faut surtout un appel au calme. Il faut que la solution soit plus politique que militaire, que la répression que l'on est en train d'entrevoir. Donc je pense que les États, au lieu de jeter de l'huile sur le feu, doivent appeler les partis à une conciliation, à une résolution plutôt politique.
Parfait Siki, journaliste et directeur de rédaction du quotidien de l'économie. Victoire d'Ali Bongo et des affrontements dans Libreville entre les forces de sécurité et des manifestants contestant la réélection du président sortant, des événements suivis de près sur le continent. Bagassi Koura a recueilli la réaction de Ismaël Diallo, porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou au Burkina Faso.
Quelqu'un dira, écoutez, les résultats ont été donnés, il faut laisser faire. D'autres diront non, il ne faut pas accepter cela parce que ce serait accepter la forfaiture. Mais ça prouve encore une fois que les élections en Afrique seront de plus en plus difficiles, de plus en plus contestées, et il sera de plus en plus difficile au président sortant de trafiquer, prêtez-moi le terme, les résultats pour se maintenir au pouvoir. Je ne dis pas que le président sortant actuel au Gabon l'a fait. Je dis simplement que cela sera difficile de renouveler.
Vu les résultats assez serrés entre les deux candidats, 49% pour Ali Bongo et 48% pour Jinping, on se demande si le Gabon avait un système de second tour. Cela pourrait peut-être contribuer à apaiser la situation.
Ça aurait été une bonne chose. Malheureusement, au Gabon, ils ont le système d'un seul tour, qui fait que c'est celui qui a la majorité, même si c'est de 50 voix, qui gagne. C'est dommage, mais c'est ainsi. C'est comme également les observateurs de l'Union européenne et méditons également des États-Unis ou le gouvernement américain qui demande un décompte bureau de vote par bureau de vote. Ce serait une bonne chose, certes, mais si cela n'est pas prévu par les lois et règlements du Gabon, ce serait difficile de le faire parce que ce serait un précédent. C'est une situation extrêmement difficile en ce moment. Espérons simplement que cela n'aille pas plus mal.
Est-ce qu'Ali Bongo n'a pas gagné aussi parce qu'il est le fils d'Omar Bongo avec un système assez bien implanté?
Il est difficile pour le président Ali Bongo de perdre les élections, vu que ce système est au pouvoir depuis longtemps. Mais en même temps, dire que Jinping est une alternative très différente de Ali Bongo, cela me surprend un peu, parce qu'il a fait partie du système depuis toujours.
Alors, que peut faire l'Union africaine dans ce scénario où on s'achemine vers l'affrontement?
Bonne question. Qu'est-ce qu'elle peut faire? J'aimerais bien savoir. Et je suis vraiment étonné de voir beaucoup de gens se battre pour diriger l'Union africaine. À part la satisfaction des égos, je me demande vraiment si qui que ce soit a la capacité, la possibilité de créer quelque chose de nouveau dans cette organisation. Pour répondre simplement à votre question, je dirais que je crains que l'Union africaine n'ait pas grand-chose à proposer pour éviter que la situation dégénère. Vous voyez aujourd'hui le Burundi, vous voyez la Somalie, etc.
C'était Ismaël Diallo, porte-parole du Front de renforcement de la citoyenneté à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Dans Washington Forum, direction le Gabon, où la Commission électorale nationale a validé la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des suffrages contre 48,23% face à son rival Jinping. Ce jeudi, on analyse le processus électoral et les résultats de ce vote à un tour. Que pensez-vous de ce deuxième septennat pour le président sortant Ali Bongo? Quel futur pour l'opposition gabonaise? Quelles conséquences immédiates et à long terme pour le pays? On attend vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel.
Le gouvernement nigérien compte céder pour un bail de 90 ans 120 000 hectares des terres agricoles à des Saoudiens dans le but, dit-il, de développer la région Est et de lutter contre l'insécurité alimentaire. Les négociations sont en cours, mais les organisations de la société civile s'opposent à cette cession considérée par elles comme un bradage des terres fertiles indispensables pour le bétail. Ce sont des agriculteurs et des éleveurs qui vont être spoliés, s'inquiète Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen. Il est joint par téléphone à Niamey au Niger par Nani Talani.
Bon, on s'oppose parce que d'abord, les terres qui vont être concédées, ce ne sont pas des terres vierges et des terres inexploitées. Ce sont des terres agricoles déjà exploitées, c'est aussi des terres pastorales. Donc, si on donne une telle superficie très vaste à un opérateur privé pour faire la production, ça sera au détriment des petits producteurs locaux, notamment les agriculteurs, les éleveurs qui vont être expoliés. Et donc, pour nous, ce n'est pas quelque chose d'acceptable, d'autant plus qu'on ne peut pas compter sur des opérateurs privés pour assurer la sécurité alimentaire de la population. Et de surcroît, ça intervient à un moment où cela paraît déjà très, très grave. Vous savez que cette région de Diffa est confrontée à l'insurrection de Boko Haram depuis quelques années. C'est donc une région déjà déchirée par un conflit. Et donc, si on donne ces terres à des Saoudiens, alors qu'il n'y a pas très longtemps déjà, les populations ont été chassées de ces terres, à la fois par les attaques de Boko Haram, mais aussi par les décisions du gouvernement d'évacuer les îles et les villages du lac Tchad. Les populations rêvent de pouvoir retourner dans leurs villages, dans leurs îles, si le conflit prend fin, mais si on leur annonce que les terres vont être mises en bail à un groupe d'investisseurs privés, ça veut dire que c'est quand même une perspective très sombre pour les populations.
De quels moyens disposez-vous pour vous opposer à la décision du gouvernement?
Pour le moment, Dieu merci, il n'y a pas un accord qui est signé formellement. Les négociations sont assez avancées, mais nous comptons déjà faire le plaidoyer, attirer l'attention du gouvernement sur le fait que c'est une décision grave, surtout dans un contexte déjà de conflit. C'est très grave et donc nous attirons son attention et nous espérons être entendus par les plus hautes autorités.
Au cas où les autorités ne renonçaient pas à ce bail, jusqu'où êtes-vous prêt à aller?
On utilisera tous les moyens du droit, tous les moyens légaux, notamment la mobilisation de la population elle-même pour dénoncer cette perspective sombre. On ne va pas rester les bras croisés, mais on espère que probablement on n'aura pas besoin d'avoir recours à d'autres moyens pour se faire entendre et on espère que le gouvernement lui-même comprendra que c'est quand même quelque chose de grave pour le pays. On ne peut pas autoriser à donner 120 000 hectares de terre pour une durée de 99 ans à des investisseurs privés au détriment des petits producteurs.
Moussa Tchangari, joint à Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Présidentielle américaine 2016, discours de Donald Reagan sur l'immigration et visite surprise au Mexique pour une rencontre avec le président Enrique Peña Nieto. Jean-Roger Bion fait le point.
Cette visite de M. Trump à Mexico n'avait pas été sans controverse, à savoir qui va payer la construction de son mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Dans une conférence de presse conjointe avec M. Peña Nieto, M. Trump avait dit que cette question n'avait pas été spécifiquement abordée dans leur conversation. Le président mexicain, qui n'avait pas contredit publiquement le candidat républicain, a par la suite écrit sur Twitter « Au début de la conversation avec Donald Trump, j'ai clairement indiqué que le Mexique ne paierait pas le mur. » Réagissant dans son discours à Phoenix, M. Trump a assuré que le Mexique financerait bien la construction de ce mur.
« And Mexico will pay for the wall. »
Le Mexique paiera pour le mur, croyez-moi, à 100%. Ils ne le savent pas encore, mais ils paieront pour le mur. Ce mur est un point central des propositions de M. Trump pour freiner l'immigration clandestine, tout comme l'expulsion des sans-papiers, notamment des éléments criminels parmi eux, ainsi que le sort des 11 millions qui sont illégalement dans le pays. C'était un véritable réquisitoire que Donald Trump a prononcé contre les clandestins, qu'il a accusé de prendre les emplois des Américains les plus vulnérables. Il a donné des exemples de crimes violents commis par certains de ces illégaux, annonçant une tolérance zéro pour ce genre de comportement. Il a pris cet engagement dès qu'il sera à la Maison Blanche.
Under my administration, anyone who illegally crosses the border will be detained until they are removed out of our country and back.
Dès le premier jour, dès la première heure, ces gens s'en iront, a-t-il déclaré, les estimant à 2 millions. Le candidat républicain s'est également engagé à annuler tous les décrets ayant accordé une régularisation temporaire à certains sans-papiers. Un reproche au président Barack Obama. Donald Trump a résumé ainsi sa position. Dans plusieurs années, une fois atteint les objectifs de construction du mur et d'expulsion des clandestins dangereux, nous serons en position d'envisager des mesures appropriées pour les individus qui resteraient. Mais il est clair qu'ils devront au préalable retourner chez eux et demander à revenir conformément aux lois en vigueur. M. Trump entend aussi tripler le nombre d'agents du Service fédéral d'immigration, ICE, et créer 5 000 postes de policiers aux frontières, en plus de quelques 20 000 existants. Le républicain veut aussi renforcer les contrôles sur les visiteurs pour empêcher le dépassement de visas, réformer le système de visas et donner la priorité à l'immigration légale selon le mérite, les compétences. Il y a aussi, selon son plan, un test idéologique pour être sûr que les demandeurs de visa aiment l'Amérique et ses valeurs et rejettent entre autres l'islam radical ainsi que les préjugés contre les homosexuels. Pour les observateurs politiques, c'était le Donald Trump des primaires, un candidat qui rassurait sa base conservatrice plutôt que de l'élargir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.